Il est midi à Paris, 13h à Khartoum. Vous écoutez RFI, 11h en temps universel.
Diane Berger.
Des soldats en liesse à l'intérieur du palais présidentiel de Khartoum. L'armée soudanaise a repris le bâtiment aux mains des forces de soutien rapide. Mais les paramilitaires répliquent avec au moins une frappe de drone. Trois journalistes ont été tués. L'offensive israélienne toujours intense à Gaza. Le ministre israélien de la Défense ordonne à son armée de saisir plus de territoire. Cela malgré les critiques du président d'Israël, Isaac Herzog. Après 5 semaines de débats, c'est la fin du procès. Des geôliers présumés de l'État islamique. Le verdict sera connu dans quelques heures à la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis on se penchera sur les habitudes de voyage des Français pour terminer ce journal. Et vous l'entendrez, le tourisme en solo est à la mode. C'est tout un symbole au Soudan. Après quasiment 2 ans de guerre, l'armée soudanaise a annoncé ce vendredi matin avoir repris le palais présidentiel dans le centre de Khartoum. Le bâtiment était occupé par les forces de soutien rapide depuis le début du conflit en avril 2023. Une reconquête après des semaines de combats violents dans les rues de la capitale. En studio avec nous, Paul Lorgerie, bonjour.
Bonjour Diane.
Paul, cette reprise du palais présidentiel n'est pas pour autant un synonyme de victoire.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent en effet des soldats de l'armée soudanaise en liesse brandissant armes et drapeaux soudanais au milieu des débris du palais présidentiel ou de moins ce qu'il en reste. Selon le média Sudan War Monitor, l'opération a commencé dimanche par un encerclement des forces de soutien rapide, les FSR, du général Emeti, dit Daglo. Ce dernier avait alors appelé ses éléments à tenir leur position. Mais mercredi soir, nombre d'entre eux ont tenté de fuir et de percer la ligne de l'armée soudanaise. D'après une source sécuritaire contactée hier par l'AFP, un convoi des FSR de 30 véhicules qui essayait de se replier vers le sud a été détruit. C'est donc ce matin que l'état-major a confirmé la prise du palais présidentiel et il a cité, et je cite, « Nos forces ont complètement détruit les combattants et les équipements de l'ennemi et ont saisi de grandes quantités d'équipements et d'armes », a précisé le porte-parole de l'armée Nabil Abdallah à la télévision nationale. Une défaite que les paramilitaires ne semblent pas avoir digérée, en annonçant que la bataille n'est pas terminée. Il y a quelques minutes seulement, l'AFP a annoncé qu'une frappe de drone a ciblé le palais présidentiel, tuant 3 journalistes de la télévision nationale se trouvant sur place.
Merci beaucoup Paul Lorgerie. Les ordres du ministre israélien de la Défense sont on ne peut plus clair. Israël Katz demande à son armée de prendre davantage de territoire à Gaza, territoire qui pourrait être annexé à Israël, dit-il, si le Hamas refuse de libérer les otages. Des propos alors que dans une rare prise de parole contre le gouvernement, le président israélien Isaac Herzog s'est dit hier soir troublé par la reprise des combats cette semaine à Gaza. Toujours en Israël, l'opposition et une ONG ont déposé les premiers recours contre le limogeage de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure israélienne, une éviction décidée la nuit dernière par le gouvernement Netanyahou. Le verdict est attendu ce soir au procès des geôliers présumés du groupe État islamique à la cour d'assises spéciale de Paris. La perpétuité requise à l'encontre de Mehdi Nemmouch, le tueur du musée juif de Bruxelles, poursuivi ici pour son implication présumée dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie. C'était en 2013 et 2014 et les actes de torture et de barbarie qu'il leur aurait infligés. Pour ces 2 co-accusés présents, le français Abdelmalek Tanem et le syrien Kaïs Abdallah, des peines de 30 et 20 ans de prison ont été demandées. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Vous avez suivi pour RFI ce procès, 5 semaines de débats intenses et inédits.
Oui, et parmi les nombreux procès pour terrorisme, celui-là est particulier en ce qu'il a offert un face-à-face entre des parties civiles et le principal accusé qui ont eu un lien de proximité inédit puisque les ex-otages accusent Mehdi Nemmouch d'avoir été leur geôlier et tortionnaire 6 mois durant. Mehdi Nemmouch restait muet pendant les 10 ans d'instruction, a d'ailleurs cette fois parlé dès le début du procès. Il s'est revendiqué soldat de l'État islamique mais a démenti avoir été geôlier. C'est par le terrorisme que la Syrie s'est libérée de la dictature, donc oui, j'ai été terroriste et je ne m'en ai m'excuserai jamais. Je ne regrette pas un jour, pas une heure, pas un acte », a-t-il encore asséné ce matin, au terme d'une diatribe visant à grand renfort de citations de Nietzsche à Poutine et sur la base de pseudo-analyse géopolitique à justifier le terrorisme. Comme il est déjà condamné à perpétuité en Belgique, il mène là le djihad à la barre, a réagi Nicolas Hénin.
Nicolas Hénin, qui est l'un des quatre journalistes français qui, comme les autres ex-otages, a livré un témoignage très fort à la barre.
Oui, parce que les victimes ont eu une place toute particulière dans ce procès, car les exactions imputées à Mehdi Nemmouche étaient relayées, pas exclusivement, mais principalement par leurs témoignages. Avec retenue mais précision, les ex-otages ont décrit les tortures, simulacres d'exécution infligés par ce geôlier particulièrement sadique. Mais ils ont aussi, et c'était un autre élément fort des débats, donné plus largement à voir de l'intérieur la réalité crue du projet totalitaire et mortifère de l'EI. Ils ont expliqué combien, malgré les subies sévies aux mains de ceux qui allaient participer ensuite aux attentats en Europe, eh bien ce sont d'abord les Syriens sur lesquels les tortionnaires se sont acharnés. Ils commettaient leurs pires atrocités aux antipodes du discours de ceux qui, justement, comme Mehdi Nemmouche, prétendent être venus les libérer.
Merci beaucoup Laura Martel, en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Plus de 200 bombes et drones russes ont visé l'Ukraine la nuit dernière, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui répète ce vendredi cet appel à ses alliés. Il faut faire pression sur Moscou pour obtenir la fin de ce type de terreur. C'est dans ce contexte géopolitique qu'un vote décisif a eu lieu ce matin en Allemagne, à la chambre haute du Parlement. Le plan massif d'investissement de Friedrich Merz est définitivement adopté. Un plan qui prévoit plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement, notamment pour réarmer le pays. L'incendie qui paralyse l'aéroport d'Heathrow maîtrisé, mais le site reste fermé ce vendredi à Londres. C'est le plus grand aéroport d'Europe, 230 000 passagers chaque jour, et son arrêt forcé provoque donc des perturbations conséquentes sur le trafic aérien mondial. Des problèmes de trafic qui ne nous empêchent pas de nous pencher, pour la fin de ce journal, sur les modes de voyage des Français. Et cette conclusion d'une récente étude du cabinet ProTourisme: faute de budget, le nombre de Français qui prévoient de partir en vacances l'été prochain diminue par rapport à 2024, avec aussi une préférence pour les destinations proches. Alors il y a le lieu du voyage, il y a aussi une autre question, a priori plus anodine: avec qui est-ce que l'on part en vacances? Le tourisme en solo séduit un nombre croissant de voyageurs. Reportage au Salon mondial du tourisme, signé Mathias Troud.
Agence de voyage, office de tourisme, vendeur d'équipements, le Salon mondial du tourisme regorge d'idées pour les voyageurs.
J'ai déjà préparé ma valise, j'ai déjà mis mes deux maillots.
Dans son modeste stand, Didier Géano est un des spécialistes du tourisme en solo. Il travaille à l'association Aventure au bout du monde. Ses 1200 adhérents partagent astuces et bonnes adresses.
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à partir différemment. Les jeunes, avant 30 ans, beaucoup de femmes aussi qui partent en solo parce qu'elles ont moins peur. Et quand on part en autonomie et en indépendant, en individuel, si vous voulez, ça permet aussi de concrétiser son voyage, de le préparer soi-même. Donc quand on ne connaît pas avec qui partir, le mieux c'est de se lancer tout seul dans l'aventure.
Maria a 22 ans, sac à dos sur les épaules, elle revient justement de son premier voyage en solitaire.
C'était trop bien, j'aimerais bien répéter. Je suis allée juste 2 jours, je suis partie à Milan. Je suis partie juste pour visiter la ville et il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux parce que je suis toute seule.
Hors des circuits balisés, la tendance du voyage solo peut sembler casse-cou. Pas pour cette quinquagénaire dynamique et ses 32 ans d'expérience en solitaire.
On ne drague pas, on ne fume pas et on ne boit pas. Et là déjà ça va mieux. Quand on est dans sa pleine conscience, on apprécie aussi tout ce qui est autour de nous. On est tout le temps en observation. Et en même temps, quand il y a des rencontres, on se lâche complètement et c'est chouette.
Des rencontres, par exemple, en auberge de jeunesse ou lors d'une nuit chez l'habitant, quand on ne dort pas à la Belle Étoile. Ce sont autant de solutions pour ménager son budget et c'est plus facile en solo.
Ça ne coûte rien. Je suis allée, par exemple, au Ladakh, qui est un pays à 5000 mètres, au nord de l'Inde. Et ça m'a coûté, avec le billet d'avion, moins de 2000 euros pour un mois et demi, par exemple. Alors que les gens, ils vont au Ladakh pour 4 500 euros pour 15 jours.
Philippe Mellul est un expert en la matière. Il a visité les 197 États indépendants du monde, souvent en solitaire. Il apprécie particulièrement les échanges culturels que ces conditions permettent.
Comme on est seul, on s'imprègne plus des contacts avec la population. On recherche le contact, donc on va plus vers les gens, mais les gens viennent plus vers vous aussi. Parce que quand ils voient un couple, ils se disent on va pas les déranger, alors que si c'est une personne seule, le contact se fait plus facilement.
Selon une étude menée par le Salon mondial du tourisme, près d'un voyageur sur quatre prévoit de partir seul cette année.
Un reportage de Mathias Troud. C'est la fin de ce journal dans 20 minutes. Rendez-vous avec RFI Midi avec Anne Kortner. Et tout de suite, pourquoi est-ce que RFI dit ça ?